Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, le Conseil de l'Europe et la Russie.
Oui, avec une réhabilitation qui va laisser des traces puisque la délégation russe a réintégré lundi le Conseil de l'Europe et son droit de vote 5 ans après avoir été suspendu en raison de l'annexion de la Crimée. Le Conseil de l'Europe devient la première organisation politique au monde à lever des sanctions contre la Russie, pas sans controverse et pour obtenir quoi ? On voit ça avec vous Tatiana Kastueva-Jean, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes la directrice du Centre Russie, Nouveaux États indépendants à l'IFRI. Alors, renouement ou renoncement aux principes fondateurs, comme l'ont dit certains. En tout cas, le vote a été houleux. 9 heures de débat, finalement 118 voix pour la réintégration, 62 voix contre dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La France, la Belgique qui soutenaient la réintégration et l'opposition assez nette des États baltes ou des Britanniques. Première question, est-ce que c'est un vote qui vous surprend, ce qui révèle des positions antagonistes, et est-ce qu'il était prématuré de ce point de vue-là?
C'est un vote qui, pour moi, était attendu. On retrouve dans les pays qui ont voté contre l'unanimité la Géorgie, la Pologne, les pays baltes, la Grande-Bretagne et bien sûr l'Ukraine. Mais beaucoup de pays ont voté pour le rétablissement entier de la Russie dans son droit de vote, comme la France, l'Espagne, l'Autriche ou encore la Norvège. Et c'est un vote, évidemment, hier, beaucoup de pays, beaucoup de délégués ont dénoncé l'abandon des principes du Conseil de l'Europe, le suicide collectif, car le Conseil de l'Europe cède en fait à la Russie sur ce dossier-là, quasiment sur tous les points. La Russie récolte le fruit de la patience stratégique qu'elle a eue. Elle a insisté sur ses positions. Et finalement, elle récupère le droit de vote sans concession de sa part. Le seul argument qui est très important, c'est les citoyens russes qui auraient été privés autrement de droits de recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on sait que la Russie est parmi les pays leaders en matière de déposition de requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, ce qui a été l'argument de la France, notamment d'Amélie de Montchalin, le 24 juin dernier.
Absolument. Et aussi d'Emmanuel Macron face à notamment Vladimir Zelensky lors de la visite du président ukrainien à Paris.
Alors qu'à contrario, vous soulignez, en effet, ça va à l'encontre des principes pour lesquels les sanctions du Conseil de l'Europe avaient été prises, et notamment concernant l'intangibilité ou l'inviolabilité des frontières. Juste une question sur la Russie, qu'est-ce qu'elle aurait quand même à gagner à réintégrer cette institution, outre, disons, le symbole, institution qui est quand même une sorte de poil à gratter, puisque la Cour européenne des droits de l'homme en dépend, poil à gratter pour la Russie, notamment parce qu'elle a soutenu toutes les demandes de Navalny, l'opposant notoire.
Tout à fait. Pour la Russie, c'est une plateforme quand même où il peut faire entendre sa voix. C'est une plateforme de discussion, même si on dit le Conseil de l'Europe n'est pas une institution politique. Au fond, ce sont aussi les dossiers politiques qui sont discutés, pas seulement les dossiers de droits de l'homme qui sont d'ailleurs éminemment politiques. Donc la Russie a gagné encore un canal où elle peut faire entendre sa voix, et surtout le message qui est envoyé, c'est que si on reste campé sur ses positions sans rien céder, on peut quand même obtenir gain de cause.
Et alors concernant cette réintégration, elle était déjà quasiment actée depuis le 16 mai et depuis que la France a pris la présidence du Conseil de l'Europe. À l'époque, Emmanuel Macron avait dit le Conseil de l'Europe a besoin de la Russie comme la Russie et les Russes ont besoin du Conseil de l'Europe. Il y a deux aspects, on pourrait dire. La Russie, un des principaux contributeurs au budget avec 7% de ce budget. Et puis la nécessité peut-être de réarrimer la Russie, comme on dit. On a parlé de la crainte d'un Rouxit, sortie complète de la Russie. Est-ce que ce risque était réel et imminent?
En fait, c'est déjà au moment de l'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe en 1996 que toutes ces questions étaient remuées, parce que la Russie ne correspondait pas à l'époque parfaitement au principe de l'Union du Conseil de l'Europe. Et c'était en quelque sorte l'avance sur les futurs progrès que la Russie pourrait effectuer. Et on voit bien que des années plus tard, on est quand même dans une situation qui est extrêmement ambiguë. Côté français, il y a une volonté depuis 2014, depuis le début de la crise avec la Russie à cause des événements en Crimée et à l'est de l'Ukraine, de maintenir des canaux de dialogue. D'ailleurs, le mot officiel pour décrire la politique française à l'égard de la Russie est dialogue et fermeté. On reste ferme sur certains aspects, sur les principes, et en même temps, on maintient les dialogues ouverts pour continuer à discuter avec la Russie, pour essayer de faire avancer les choses aussi autrement. Et il y a un exemple qui est très intéressant, l'exemple de la création du mécanisme de dialogue du Trianon, le dialogue de la société civile, qui a été créé déjà après l'annexion de la Crimée et qui est aussi l'un des moyens que la France, avec grâce auquel la France cherche à ouvrir le dialogue, à l'élargir.
Oui, et c'est toujours dans la même idée d'ailleurs que Medvedev a été reçu au Havre par Édouard Philippe il y a deux jours ou juste hier. Édouard Philippe qui disait il s'agit d'ouvrir un nouvel espace de dialogue. Alors pour obtenir quoi précisément pour la France, c'est-à-dire des avantages en bilatéral, on pourrait dire des facilités économiques, ou alors plutôt des avantages, des gains politiques internationaux, et notamment peut-être la réintégration de la Russie au sein du G7, donc G8, fin août à Biarritz.
Oh, je pense que c'est plutôt l'impact politique qui compte pour la France, même si les retombées économiques ne sont pas négligeables. Mais je voudrais juste rappeler que la France est le premier investisseur, si on ne compte pas les zones offshore, en France aujourd'hui, en Russie aujourd'hui. Merci. Et que c'est le premier employeur étranger. Donc la France est très bien présente. Vladimir Poutine envoie des signes très positifs pour la France en recevant l'année dernière et cette année aussi les entrepreneurs français au Kremlin. Il y a beaucoup de projets, de grands projets en cours. Donc côté relations économiques, la France est plutôt bien représentée. Mais évidemment, l'action d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie est plutôt jugée sur les aspects politiques, et la France essaye de profiter de sa présidence au Conseil de l'Europe et au G7 pour faire avancer les choses. Il y a aussi un paramètre, c'est l'élection récente du nouveau président ukrainien, et je pense que la France mise sur un moment qui serait propice pour faire avancer les choses. Si ce n'est pas maintenant, ce sera encore plus difficile plus tard. La France fait partie aussi du format de Normandie, c'est un format dans le cadre duquel il y a les solutions qui sont recherchées pour le conflit à l'est de l'Ukraine, en tenant compte de la passivité de l'Allemagne. C'est de fait la France qui prend le leadership sur ce dossier.
Et alors précisément quand même avec une délégation ukrainienne qui a quitté le Conseil de l'Europe, enfin pas définitivement, mais en tout cas qui a voulu marquer le coup en parlant d'un festival d'hypocrisie, hein, disait son ambassadeur. Quelques gages qui ont été donnés par la Russie récemment en termes de droits de l'homme, comme la libération d'Oyub Titiev de l'ONG Mémorial en Tchétchénie. Mais est-ce que la France s'est pas mise dans une position quand même difficile, ne serait-ce que par cette mise en retrait ukrainienne quand même.
La France, je pense, est dans une situation assez difficile où il y a parfois des actes contradictoires. Par exemple, vous savez, lors de la visite de Zelensky à Paris, le Quai d'Orsay a publié une vidéo qui est très critique à l'égard de la Russie, qui rappelle l'annexion de la Crimée, la violation des droits des minorités tatars en Crimée, etc. Et quelques jours plus tard, voilà, la Russie est rétablie dans son droit de vote. Donc il y a des signes contradictoires qui sont donnés à la Russie. Et évidemment, on espère que ça permettra de faire changer la politique russe. Or, on voit depuis 2014 que la Russie n'a pas fait de concessions sur aucun dossier. Et comme je disais, elle mise sur la constance de sa politique et la patience stratégique pour obtenir gain de cause.
Et alors, précisément, qu'est-ce qu'il serait possible d'obtenir, mettons, dans le courant de l'année, dans un contexte où il y a toujours des tensions importantes? Là, on l'a vu tout récemment en début de semaine autour de la question des nouveaux missiles stratégiques russes avec l'OTAN, et puis toujours des tensions dans le voisinage proche de la Russie, notamment là, cette crise en Géorgie, depuis le discours d'un député russe au Parlement géorgien.
Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'événements récemment qui montrent en fait que la Russie reste sur les positions très dures vis-à-vis de son voisinage. Et elle n'hésite pas à mettre les sanctions contre les pays quand elle considère qu'ils agissent contre ses intérêts. Et on a bien vu que dans le cas géorgien, la Russie a suspendu les vols vers ce pays, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de touristes, plus d'un million par an, qui, malgré la rupture des relations diplomatiques après la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie, continue à visiter, à partir pour les vacances dans ce pays-là. Et la Russie utilise vis-à-vis de ces pays-là autant la carotte des crédits et des tarifs intéressants pour le pétrole et le gaz que le bâton. Et le bâton, il tape évidemment là où ça fait très mal, c'est-à-dire de nouveau sur les tarifs de pétrole et de gaz, sur la fermeture de son propre marché pour les produits venant de ces pays. Et c'est souvent les l'IVA, les produits de l'agriculture qui sont touchés. Et c'est très probablement le prochain cas pour la production géorgienne. Et c'est aussi le tourisme ou encore, dans une moindre mesure, les flux de migrants. Pardon, parce que la Russie accueille beaucoup de main-d'œuvre venant de ces pays-là. Et en 2006, on se souvient par exemple qu'il y a eu la déportation des Géorgiens vers leur pays.
Bon, bah écoutez, situation à suivre, comme quoi il y a quand même de la géopolitique dans cette affaire, contrairement à ce que disait Amélie Montchalin. Eh bien, merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui. Tatiana Jean, merci.